Bonjour, c'est la 80e revue de la semaine et elle n'est pas comme les autres parce que pour la première fois, nous avons dépassé les 400 000 abonnés à cette chaîne et inutile de vous dire que, aussi bien Antoine qui fait la prise de vue que moi, nous sommes très heureux parce que cette revue de la semaine, c'est du travail, c'est un investissement. Nous, on y croit, on est conscient des limites, hein, de cet exercice et de son caractère parfois un peu décalé, on va dire, hein. Bon, allez, générique. Au moment où je commençais à enregistrer cette émission, j'ai décidé de séparer la question de ce qui s'est passé à Strasbourg dans la nuit qui a précédé cet enregistrement. Parce que il faut d'abord répondre comme responsable politique, comme président d'un groupe parlementaire, à une émission collective et essayer d'aider par une parole officielle à mettre les choses à leur place. Donc je n'y reviens pas dans cette revue de la semaine et je vous renvoie à cette petite vidéo filmée alors que l'assassin était encore en fuite. Alors ici, je vais vous parler des deux événements de la semaine. Le premier est la situation en Angleterre avec le Brexit, parce que maintenant on a l'impression que tout le monde s'en fout, mais enfin bon, quand même. Le Royaume-Uni quitte l'Europe dans des conditions calamiteuses et ça pose d'innombrables problèmes. Hein, vous n'avez pas fini d'en entendre parler de cette affaire-là. Et pas seulement aux Anglais et aux Irlandais, puisque c'est le cœur de l'affaire. Et deuxièmement, il y a eu les annonces de M. Macron. Et troisièmement, il y a la préparation de la semaine jusqu'à samedi et à l'appel à la manifestation qui a lieu pour samedi prochain. Alors je vais parler de ces trois sujets l'un après l'autre. D'abord, je vous parle du Brexit. Il y a eu un débat au Parlement français qui consistait à donner au gouvernement, en quelque sorte, carte blanche, hein, pour faire des ordonnances, pour faire face aux conséquences juridiques de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors évidemment, bon, les orateurs du gouvernement voulaient qu'on parle de rien d'autre, surtout pas d'Europe, ni même de pourquoi les Anglais s'en vont. Il fallait juste parler de savoir, pour savoir ce qu'on va réserver comme sort aux Anglais qui sont en France et aux Français qui sont en Angleterre. Évidemment que ça n'a pas de sens. On sait ce qu'on a à faire et ça se résume en quelques mots. Les Anglais sont les bienvenus en France quand ils viennent s'y installer. S'ils y travaillent, qu'ils y vivent avec nous, ben nous sommes contents et voilà tout. Quant aux Français qui sont en Angleterre, eh bien, si c'est pour de bonnes raisons, on leur souhaite de bien bosser. Si c'est pour spéculer et faire le malheur du monde, ben non, on n'a aucune raison de les féliciter. Bon, bref, tout ça, c'est la vie comme elle va. Par contre, ce qui n'est pas la vie comme elle va, c'est évidemment le fait que les Anglais s'en vont. Et vous croyez qu'ils se demandent une seule seconde pourquoi? Non. Ils pensent que c'est un complot d'extrême droite, la xénophobie, je ne sais pas quoi, comme d'habitude. Bref, ceux qui sont contre l'Union européenne, c'est-à-dire contre l'actuelle Union européenne dans ses traités actuels, sont immédiatement traités de tous les noms, montrés du doigt et stigmatisés. Exactement comme si c'était des gilets jaunes, hein, comme on le fait dans les médias avec les gilets jaunes, c'est que c'est toujours des gens qui sont présentés comme un peu diminués, pas capables de comprendre. Comme l'a dit un éditorialiste à un gilet jaune, il lui dit: vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Alors, le gilet jaune lui a répondu: vous n'êtes pas un vrai journaliste. Et bon, quelqu'un sur le plateau a dit: non, mais il faudrait d'abord définir ce qu'est un vrai gilet jaune. Bah oui, en effet. Et qu'est-ce qu'un vrai journaliste aussi, ça gagnerait à être défini. Bref, dans les situations de confusion, on voit toujours remonter les mêmes figures. Les dominants méprisent les dominés. Et quand les dominés ont le dernier mot, les dominants sont fous de rage et n'ont jamais assez de mots pour flétrir ceux avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Mais c'est pas la même chose en Angleterre, et ici, la presse française ne cesse de dire que les Anglais réclament un nouveau vote. Bon, ce qui est admirable, vraiment admirable chez les Anglais, c'est que le vote populaire est respecté. Et que le gouvernement ne fait pas comme l'a fait le gouvernement français. Quand le peuple a voté non, le gouvernement a dit: ah, on a très bien compris le message, c'est oui. Voilà, pouf, ils ont fait comme ça. Alors, cette démocratie anglaise, elle est vivante. Les Anglais ont voté qu'ils voulaient sortir, donc le gouvernement applique les clauses de sortie de l'Union européenne. C'est tout à fait admirable. Maintenant, ça se passe dans des conditions qui ne sont pas idéales, c'est-à-dire qu'on ne tombe d'accord sur rien. Mais alors, je vois que la discussion, c'est est-ce que les Anglais s'en vont dans de bonnes conditions pour les Anglais ou pas? Et moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce qu'ils s'en vont dans des conditions qui améliorent la situation des autres? Et c'est pas le cas. Cet accord de sortie des Anglais, c'est un des pires accords de libre-échange qu'on ait jamais signé. Parce qu'on propose aux Anglais d'accéder au marché unique comme ils veulent, et non seulement comme ils veulent, mais si par hasard il y a un litige, eh bien, on créera les tribunaux d'arbitrage privés contre lesquels on s'est battu dans l'accord de libre-échange avec le Canada, ou l'accord de libre-échange avec les Japonais, ou l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc ça veut dire qu'il suffit à une entreprise qui aura un litige avec un État européen d'avoir un siège transféré à Londres pour pouvoir recourir contre un État quelconque de l'Union européenne par un tribunal d'arbitrage qui, comme vous le savez, n'a rien à voir avec la justice, ni non plus avec l'arbitrage, puisque c'est toujours le plus fort qui gagne, c'est-à-dire l'entreprise. Vous avez bien compris qu'un tribunal d'arbitrage, on appelle ça tribunal, mais en réalité, il y a d'un côté des personnes, juges et avocats qui sont désignés, des fois ils changent de rôle, hein. Un coup ils sont avocats, l'autre coup ils sont juges, qui sont agréés par les deux parties, tu parles, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans un panel de gens disponibles pour ça, et ce tribunal décide qui a raison de l'État ou de l'entreprise, c'est-à-dire qui a raison d'une entreprise ou de millions de personnes qui se sont donné une juridiction dans leur pays. Et si une entreprise décide que ce qui a été décidé dans un pays est contraire à ses intérêts, elle peut obtenir réparation. Bref, tout ça, c'est ce qu'on est en train de signer avec les Anglais. Donc le Royaume-Uni serait l'espèce de hub des marchandises et des mauvais coups des entreprises sur l'Europe. Donc c'est un très mauvais accord. Hein. C'est un très mauvais accord qui est proposé là et que les Européens veulent signer avec les Anglais. Je dis les Européens pour parler des États membres de l'Union Européenne, car naturellement, les Anglais ne cessent pas d'être Européens seulement parce qu'ils sortent de l'Union Européenne et c'est bien que tout le monde le réalise. Ensuite, il y a une deuxième question qui est préoccupante, c'est que, comme vous le savez, il y a un bout de l'Irlande qui est membre du Royaume-Uni, et l'autre qui ne l'est pas, qui est un État indépendant, qui est la République irlandaise. Et du temps où et l'Irlande et l'Angleterre étaient membres de l'Union Européenne, bah, du coup, il n'y avait plus de frontière, hein, on va dire une frontière administrative. Mais les gens circulaient librement d'un endroit à l'autre, ainsi que les marchandises, et d'une certaine manière, l'unité réelle de l'Irlande était accompli, moyennant des satisfactions qu'on a pu donner aux unionistes, c'est-à-dire aux protestants partisans de l'union avec le Royaume-Uni. Bon, tout ça a été en train de s'effacer. Alors maintenant, la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, donc la frontière est rétablie entre Irlande du Nord et Irlande du Sud. Donc patatras, grosse question, parce que recommencent tous les sujets qui étaient sur la table et qui s'étaient interrompus dans la période précédente, donc avec les risques de guerre et que ça recommence, la bataille rangée, armée, entre les républicains irlandais et les royalistes du Royaume-Uni. Bon. Donc on voit une fois de plus que la question des frontières, elle existe en Europe et qu'il faut trouver un moyen de la régler. Le conflit irlandais n'a rien à voir avec l'Union européenne, c'est une question qui est beaucoup plus profonde et qui a à voir avec le fait de savoir si les deux Irlandes n'en font qu'une ou si elles sont deux pour des motifs religieux. Hein. Bon. Donc vous voyez que la question des frontières est posée. C'est pour ça que j'avais proposé qu'on fasse une conférence en Europe des frontières, parce que c'est pas la seule qui va être tout d'un coup remise à l'ordre du jour. Il y a des problèmes de frontières entre tout un certain nombre de pays de l'Europe de l'Est. Il y a des problèmes de frontières dans nos régions. On l'a vu récemment quand il a été question de l'indépendance de la Catalogne. Quoi qu'on pense de cette question de l'indépendance de la Catalogne, de toute façon, on voit qu'on aurait eu à nouveau un problème de frontières. Parce que l'Union européenne avait dit « Ah ben si la Catalogne est indépendante, elle ne sera pas membre de l'Europe, on ne voit pas pourquoi, et ni qui va décider une chose pareille. » Puisque quand l'Allemagne de l'Est a été rattachée à l'Allemagne de l'Ouest, personne n'a dit « Ah ben ces gens-là, on doit d'abord voter pour savoir s'ils ont le droit de rentrer en Europe ou pas. » Vous voyez, la question des frontières, c'est évidemment une question très 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 délicate, et il vaut mieux avoir des endroits où on en discute que de laisser les situations aller à pourrir, parce que ça se termine toujours par des guerres. Bon, c'est, par définition, l'objet des guerres, c'est les frontières, hein, la plupart du temps, et même dans la quasi-totalité des cas. Donc voilà, le Brexit est une question. Vous irez dans les liens, si ça vous intéresse, vous pouvez entendre, j'ai fait un petit discours, j'avais une demi-heure, j'ai pris qu'un quart d'heure, pour expliquer comment je vois, au nom des Insoumis, cette affaire de départ des Anglais. Parce que la vraie question qui se pose à l'origine de tout, c'est pourquoi ils sont partis. Pourquoi ? Ils sont partis parce que cette Union européenne n'apportait aucun bonheur au peuple. Donc les gens ont dit, on en a assez, ça coûte des sous, et ça nous empêche de progresser. Alors après, il y avait toutes sortes de motivations. Vous avez en effet des nationalistes qui ont voté pour sortir, puis vous avez des progressistes qui ont voté pour sortir en disant, il y en a assez, d'un cadre qui rend à tout jamais impossible un progrès social quel qu'il soit, puisque l'Europe les interdit tous. Alors, bon, voilà. Là-dessus, on apprend que il devait y avoir un vote aux communes. La commune, c'est l'Assemblée nationale en Grande-Bretagne. Et la première ministre, Madame May, s'aperçoit qu'elle n'a pas de majorité. Donc elle reporte le vote qui pourrait n'avoir lieu qu'en janvier. Donc c'est le grand bazar. Le grand bazar, il faut que vous compreniez que c'est grave, un bazar dans une institution qui concerne 450 millions de personnes. Vous en avez tout un bout qui ne sait pas s'il est dedans ou dehors. C'est pas rien. Et à quel moment ça arrive, les gens ? Incroyable. Tout le monde s'en fout, personne n'a l'air d'être au courant. Mais vous vous rappelez le fameux TSCG, on ne savait plus comment on devait l'appeler à l'époque, parce qu'il changeait de nom tous les 8 jours. C'est ce qu'on avait appelé plus simplement le traité Mercosy. C'est un traité qui avait été signé entre Mme Merkel et M. Sarkozy, ils avaient mis ça au point, et Hollande avait dit « Ah, moi si j'arrive et que je suis élu, je vais renégocier tout ça ». Et bon, naturellement, il n'a rien renégocié, comme d'habitude, et puis il est arrivé, il a dit à Mme Merkel, bon, c'est qu'on signe, et il a signé. Et c'est un traité qui a instauré des règles terribles de surveillance budgétaire sur les budgets des nations, qui a resserré les taux, qui vise à faire de toutes les économies européennes et de tous les États européens, des États qui sont soumis à une même doctrine idéologique fumeuse, l'ordolibéralisme, c'est-à-dire le libéralisme le plus violent, qui sépare l'économie de la politique et qui dit l'économie a ses propres règles, et vous autres, les citoyens, ne vous en mêlez pas. Bon, il y avait ce traité, on a assez protesté contre, dit que c'était une honte, qu'il l'ait quand même signé alors qu'il avait dit qu'il le renégocierait, etc., etc. Bon, alors maintenant, je vous fais une révélation, encore une fois, je suis stupéfait que tout le monde s'en foute et que personne n'en parle, c'est que dans ce traité, TSCG, dedans, il y avait une date limite d'application, en disant, bon, ce traité, il vaut pour 5 ans, et puis dans 5 ans, on rediscutera pour savoir si on le met dans le droit commun européen. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a là passerait dans les traités précédents, comme le traité de Lisbonne, et ça devient le droit de toute l'Europe pour toujours, et ainsi de suite, et à jamais. D'accord ? Il y avait une date, 5 ans. Donc, on aurait dû en discuter avant janvier 2018. Et avant janvier 2018, personne n'a parlé de rien. Et l'affaire a continué comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un se réveille et dise « mais ça, c'est pas possible, parce que la date de péremption est passée, donc le traité est plus bon. »« Ah bon, oh, catastrophe, alors vite, il faut en reparler. » Et il présente un projet qui arrive au Parlement européen, parce que là, pour le coup, c'est de sa compétence, et ça commence par la commission dans laquelle ça doit être débattu. Et pour que ça arrive à la plénière, il faut d'abord que ce soit passé dans la commission. Et là, dans la commission, patatras, un vote, le traité est rejeté. C'est-à-dire que les gens disent « non, non, on ne passera pas ça dans le droit commun, non, non, on n'est pas d'accord ». Résultat, ça ne peut pas aller en plénière, donc tout est bloqué. Autrement dit, le traité central depuis 2012 qui organise la vie de l'Union européenne ne vaut plus rien. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien. Alors donc, vous êtes dans une Union européenne qui est régie par un traité qui ne devrait plus s'appliquer, et de quel s'en vont un pays aussi important que la Grande-Bretagne. Voilà la situation de l'Union européenne dont nous parlons, qui est plus que brinque-ballante et qui est en état d'agonie. Hein. C'est ça la vérité. Et il est donc temps de sortir des traités qui ont créé cette situation, encore que là, c'est le traité qui est sorti tout seul. Par conséquent, on voit que c'est bien notre position, notre thèse qui était la bonne, qu'il fallait revenir sur tout ça, qu'il fallait en reparler, qu'il faut maintenant corriger la catastrophe à laquelle mènent ces traités qui conduit des peuples à préférer s'en aller plutôt que de vivre sous de telles lois. Eh bien voilà la question aussi qui nous sera posée pour les prochaines élections européennes, et vous savez que les Insoumis ont finalisé leur liste à la convention qu'ils ont tenue à Grenoble ce week-end, où nous avons classé définitivement notre liste et accueilli comme tête de liste quelqu'un qui n'est pas au point de départ membre des Insoumis, qui n'est pas membre actif du mouvement, et qui avait un autre engagement, qui est un engagement associatif. Mais c'est une personne qui nous apporte ses connaissances, son savoir-faire sur un domaine que nous, on considère comme crucial pour les années qui viennent, qui est la lutte contre la fraude fiscale. Parce que la fraude fiscale, c'est le privilège des riches et des tout-puissants. Et si on veut l'abolition des privilèges fiscaux, le premier des privilèges qu'il faut abattre, c'est le droit de pouvoir frauder sans jamais être puni. Voilà, parce que soit il n'y a pas le personnel, parce que les traités européens poussent à la diminution des services publics, inclus le service public du fisc, soit parce que toutes les possibilités sont données aux uns et aux autres de faire circuler leurs capitaux, et qu'on trouve aussi des présidents de la République pour appeler ça de l'optimisation fiscale. Voilà, voilà comment tout ça se tient, et voilà pourquoi l'Union européenne est vraiment mal en point et qu'il est temps qu'on s'en occupe nous-mêmes. Bon, mon deuxième sujet, ce sont les annonces de M. Macron. On a déjà fait la critique, vous avez compris ce qui s'est passé. Il fallait qu'il intervienne et qu'il reçoive immédiatement le renfort du parti médiatique pour pilonner tous les jours un message qui est répété en boucle, c'est en tournant social, on comprend pas ce que vous voulez de plus, il vient de mettre la main à la poche, et le fait est que ce qu'il a annoncé, il y en a pour à peu près 8 ou 9 ou 10 milliards, ce qui veut dire déjà que le budget actuel est déjà désarticulé, alors même qu'il n'est pas définitivement voté. Mais c'est pas ça la caractéristique principale. La caractéristique principale, c'est que les fortunes, les grandes fortunes, celles qui ont déjà bénéficié de la suppression d'impôts de solidarité sur la fortune, celles qui ont déjà bénéficié de la réduction d'impôts sur les sociétés, ne sont pas mises à contribution. Et vous entendez les ministres dire « Nous voulons montrer que le travail paye. » Ah bon, où ça? Où est-ce que vous avez montré que le travail paye? Nous augmentons le SMIC. Non, ce n'est pas vrai. C'est la prime d'activité qui augmente, ce n'est pas le SMIC. Et qui va payer la prime d'activité? Eh bien, les gens qui payent des impôts, parmi lesquels il y aura des gens qui vont entrer dans les tranches d'impôts parce qu'ils touchent une prime d'activité augmentée. Donc, dans tout ce qu'a annoncé Macron, il n'y a pas un euro qui vient de la poche des très puissants, des importants, de ceux qui ont accumulé des fortunes, dont les revenus se sont accrus d'une manière vertigineuse au cours des deux dernières années. On ne leur demande absolument aucun effort. Et ce sont de nouveau les contribuables qui vont devoir passer à la caisse parce qu'il va falloir trouver 8, 9, 10 milliards. Où vont-ils les trouver? Eh bien, évidemment, dans l'impôt, où voulez-vous que ce soit? Ou bien par des coupes supplémentaires dans les services publics, c'est-à-dire des activités de services publics de moins, des fonctionnaires en moins, des services publics de proximité de moins, c'est-à-dire le contraire de ce que réclament les Gilets jaunes. C'est donc une énorme, une immense opération d'enfumage qui a été organisée par le président Macron. Et je ne sais pas qui a pu lui dire « Écoutez, les gens sont tellement bêtes qu'ils ne vont pas se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. » Parce que, évidemment, nous, on a fait notre travail immédiatement. C'est-à-dire qu'on sait bien que c'est compliqué de comprendre ce qui se dit. Surtout quand celui qui vous le dit vous ment. Il prend un air en disant « J'augmente le SMIC ». Non, le SMIC n'augmente pas. Il augmentera de 1,8%. C'est l'augmentation prévue par la loi. C'est la prime d'activité qui va augmenter. Donc vous avez en face de vous quelqu'un qui vous ment et qui essaye de vous enfumer. Puis derrière, vous avez le rouleau compresseur médiatico-politique, que moi j'appelle le parti médiatique, qui respecte en boucle les mêmes arguments. Et dans la même période, vous avez remarqué, ça recommence, le mouvement s'essouffle, la sympathie des Français est moins grande, ce qui est faux, parce qu'au total, entre ceux qui sont tout à fait d'accord et ceux qui sympathisent, c'est ce qu'on additionnait jusque-là, bah, le chiffre reste le même ou même progresse légèrement. Donc, ça veut dire que le pays a parfaitement compris qu'il ne trouve pas son compte. Et je suis douloureusement surpris de voir que certains dans La République En Marche utilisent immédiatement l'abominable événement de Strasbourg pour peser sur le mouvement. Madame Belloubet, la garde des Sceaux, qui complètement sort de son rôle, et dit « Bon, bah maintenant, il faut que le mouvement s'arrête. » Pardon, quel est le rapport entre les deux? Quel rapport y a-t-il entre un tueur comme celui de Strasbourg et le mouvement des Gilets jaunes? Je vais vous le dire, aucun. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Et si on commence à céder à un assassin, en modifiant toute notre vie, bah, c'est lui qui a gagné, par la force des choses. Donc Madame Belloubet, quelque part, veut récompenser à sa façon l'assassin en lui disant bah, « vous avez raison, puisque la preuve, c'est que ça arrête toute la vie normale du pays. » Non, ça ne doit pas arrêter la vie normale du pays, même si cette vie normale, je veux bien l'admettre, a quelque chose d'un peu anormal, puisque ça passe par des barrages, et par des blocages. Par conséquent, moi je crois que il ne faut pas céder à la peur que pourrait inspirer cet assassin. Il ne faut pas céder, il ne faut pas lui donner le poing. Il faut donc que notre vie continue comme elle doit continuer, c'est-à-dire avec les raisons que nous avons tous les matins de nous lever, d'agir pour notre famille ou pour notre pays, comme le font aujourd'hui les Gilets jaunes. Alors évidemment, c'est eux qui vont décider, hein. Moi, je n'ai aucun rôle ni aucun pouvoir dans ce mouvement et je ne souhaite pas en avoir. Mais je sais que pour ma part, je refuse d'entrer dans le jeu qui voudrait qu'au nom de l'événement à Strasbourg, on demande aux Gilets jaunes de renoncer à quoi que ce soit. Pour ma part, je ne le ferai pas. Voilà, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis pas là pour faire le chien de garde au service des décisions qui arrangent la République en marche, le président de la République, son gouvernement et le parti majoritaire. Non, je ne le ferai pas. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la démocratie. Chacun doit être dans son rôle. Et pour ce qui me concerne, je suis un opposant et j'assume cette fonction à la tête du groupe parlementaire Les Insoumis. Je suis frappé de voir la rage et la haine. Donc pour un oui, pour un non, nous sommes entourés, nous aussi, ici dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, les Insoumis. Par exemple, à chaque fois, ils rendent des hommages aux forces de police et de sûreté. Ils se lèvent tous, ils applaudissent. Nous, on reste assis. Alors, ils nous huent comme si nous refusions je ne sais quel hommage aux forces de police. Mais nous, on refuse rien. On refuse la démagogie. On n'est pas d'accord pour se lever en cadence et en même temps que les heures supplémentaires qui leur sont dues ne leur soient pas payées. Et puis surtout, et par-dessus tout, ce que nous n'aimons pas, c'est l'ambiance de guerre civile que ce genre d'applaudissements déclenche. Quoi ? Alors les uns ont raison contre les autres. Autrement dit, quand une politique a été mise en place qui pousse tout le monde à l'affrontement, qui donne des ordres à des policiers de se comporter de telle ou telle manière, c'est-à-dire d'utiliser telle ou telle technique extrêmement dangereuse comme le nassage, et surtout un matériel qui est très dangereux, qui sont les grenades qui sont tirées sur les gens. Alors quand ces grenades arrachent des mains, crèvent des yeux, il y en a plus maintenant qu'il y en a eu au cours des 5 ou 6 derniers grands mouvements populaires que notre pays a connus. Hein. En 1986, tout s'était arrêté pour la mort de Malik Oussekine et une main arrachée à un étudiant à Nantes, un jeune homme qui avait eu la main arrachée. Là, on en est à la 5e main arrachée. On en est à 3 personnes qui ont eu des yeux crevés. Et on a déjà une morte à déplorer à Marseille. Nous ne participerons donc pas aux démonstrations qui visent à opposer les uns aux autres dans ce pays. Nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Et nous le faisons savoir par notre comportement, et peu nous importe les huées des députés de la République En Marche. Évidemment, je veux vous dire tout aussi fermement que nous autres, les Insoumis, nous ne sommes pas d'accord avec les actes qui sont commis contre des députés, fussent-ils de la République En Marche, ou d'ailleurs contre qui que ce soit, qui se traduisent par exemple par le fait que deux véhicules ont été brûlés au domicile d'une députée. Franchement, c'est pas des. Il y a un désaccord total avec ce genre de méthode. Parce que quand c'est les véhicules et la caravane d'un de nos amis qui a été brûlé dans un passé récent, on avait protesté. Eh bien, cette protestation, elle vaut pour tout le monde. C'est-à-dire, y compris lorsque ce sont nos adversaires qui sont victimes de comportements de cette nature, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout ce qui nous conduit à parasiter l'action sociale par des méthodes qui débouchent sur une escalade de violence, c'est pas une bonne idée. Et je le dis pour des raisons qui ne sont pas seulement morales, même si les raisons morales comptent dans cette affaire, mais pour des raisons de stratégie et de tactique. Avec des méthodes comme ça, on s'isole et on fractionne le mouvement. Je voulais vous le dire avec la même franchise que je viens de dire à l'instant, qu'il y a aussi des mises en garde auxquelles nous ne participerons pas. Bon, allez, c'est assez pour cette fois-ci. Si ça vous a plu, vous mettez des pouces bleus. Si vous voulez avoir des nouvelles à intervalles réguliers, ben vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. C'est pas si souvent que ça qu'il y a des choses gratuites, parce que c'est gratuit. Et nous, ça nous fait plaisir quand le nombre augmente, parce que ça nous donne du cœur à l'ouvrage. Une vidéo de cette nature, c'est du travail pour moi, qui la prépare, pour Antoine, qui la tourne et la réalise chaque semaine. Voilà, c'est un travail. Et donc, le seul salaire que nous en recevons, ben, c'est votre approbation quand elle existe, et vos petits pouces bleus et vos abonnements. Merci d'avance, donc. À bientôt.